Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Mes très chers frères, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ ne nous sont pas inconnues. Elles sont même très connues. Et pourtant, combien d'entre les chrétiens nourrissent-ils à leur égard une sourde hostilité? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Les uns en pensant qu'elle décourage le travail. Les autres lui sont hostiles en pensant qu'elle décourage l'action politique. Et d'autres encore, après avoir cru les mettre en pratique, sont en quelque sorte secrètement déçus d'avoir si peu éprouvé la récompense divine promise. Et pourtant, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est véritable et Dieu ne saurait mentir. L'homme, que tout homme soit déclaré menteur, car Dieu seul est juste et Dieu seul est véritable, dit l'Écriture. Il nous importe donc, mes très chers frères, il nous faut donc tâcher de comprendre ce que nous lisons avec l'aide du Saint-Esprit, et c'est ce que nous allons essayer de faire avec l'aide de ce même Esprit. Nous tâcherons d'essayer de comprendre ce que signifie chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, afin que tout cela nous soit donné par surcroît. Nous verrons dans un premier temps le sens du discours de notre Seigneur, le discours tout entier de notre Seigneur tel qu'il nous est donné dans l'évangile de ce 14e dimanche après la Pentecôte. Nous verrons ce que c'est que aimer le monde, et nous verrons aussi quelques erreurs à ce sujet. Ensuite, en deuxième partie, nous essaierons de voir la signification des paroles de notre Seigneur et comment nous devons chercher la justice de Dieu. Et cela nous amènera à formuler un certain nombre de considérations pratiques que vous pourrez remporter avec vous afin de les pratiquer directement. Et enfin, nous terminerons en voyant quelque chose sur la doctrine de la marche selon l'Esprit. Et nous verrons comment mettre à profit la grâce de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Soyons toujours très attentifs à ce que nous lisons. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Il y a ici un petit mot qui doit nous orienter. Il ne faut pas essayer de comprendre les versets de l'Écriture pris hors contexte et interprétés selon notre petite idée ou l'idée du le bon sens que nous avons, etc. Écoutons la parole de Dieu et sachons la comprendre dans le sens qu'elle se donne à elle-même. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu. Ce mot donc, querite ergo primum, ergo c'est donc, cherchez donc, doit nous faire comprendre que ces mots terminent le discours de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas donc les détacher de ce discours en disant « Oui, vous voyez, ce sont des paroles téméraires, attendez, taisez-vous, attendez, n'allez pas trop vite. » Cherchez donc, qu'est-ce que ça signifie donc? Ça veut dire en conclusion, chercher, alors en conclusion de quoi? En conclusion du discours qui commence par ces mots « Nul ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous avons donc, mes très chers frères, ici, dans cette parole, dans ce verset qui nous intéresse et dont nous aimerions comprendre le sens véritable, cherchez donc d'abord le royaume de Dieu, etc., l'aboutissement de ce principe que notre Seigneur pose au début, de l'impossibilité d'une double appartenance. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les auteurs nous disent que le maître de notre cœur, c'est l'amour qui domine. Si c'est l'amour de Dieu, nous ne pourrons pas aimer le monde, puisque notre cœur, la puissance d'amour de notre cœur, sera absorbée par l'amour de Dieu. Inversement, évidemment, si nous aimons le monde, même un tout petit peu, eh bien, l'amour de Dieu ne prévaudra plus en nous, et l'amour du monde est d'une certaine manière comme l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est exponentiel. Plus l'on aime Dieu, plus l'amour de Dieu nous est donné afin que nous l'aimions exclusivement et que nous jouissions de lui. Mais plus nous aimons le monde aussi, même si c'est au départ un tout petit peu, et bien plus aussi nous nous enhardissons dans cet amour du monde, et plus nous nous étonnons de pouvoir aimer le monde d'une manière qui est bien plus grande que la façon dont nous l'aimions jusqu'à présent. L'amour est un sentiment, est une passion de l'homme, qui est une des plus belles, et qui peut être aussi, qui peut le conduire ou bien à Dieu ou bien à Satan. Cela dépend de ce qu'il aime. Le maître de notre cœur, c'est l'amour qui y domine, donc. Par la fausse liberté qui est chérie par les orgueilleux, nous devenons esclaves du diable. Nous faisons librement ce que nous voulons, ça c'est tout à fait vrai, mais malheureusement, lorsque nous sommes livrés à nos propres forces, nous voulons toujours le mal. Et le mal, ce n'est pas simplement ce que Dieu n'aime pas. Là, on pourrait dire, ben, dans le fond, c'est les goûts de Dieu, c'est l'idée de Dieu, et puis peut-être que quelque chose que Dieu décrit comme mal n'est pas mal. Après tout, ce sont les vainqueurs qui font l'histoire, etc. C'est le plus fort qui fait la loi. Dieu est, sous un certain rapport, le plus fort, c'est lui, mais enfin, c'est lui qui fait la loi, mais en même temps, peut-être qu'il y a des choses. Non, des choses qui sont aimables. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit l'ami de Dieu, c'est-à-dire que l'homme vive à la gloire de Dieu et que l'homme participe à la nature même de Dieu qui est le bien suprême. Donc l'homme a un bien propre qui est Dieu, les choses de Dieu et donc de façon intermédiaire toutes les choses qui le portent à Dieu, qui ont un rapport à Dieu. Lorsque cette liberté de l'homme déchue, n'oublions jamais la déchéance de l'homme, lorsque la liberté de l'homme déchue se porte vers un objet qui lui est, disons, spontanément désirable, elle se porte vers quelque chose qui est contraire au bien de l'homme. Un petit peu comme on voit des fois des petits enfants qui ont faim, c'est une analogie, des tout petits enfants qui ont faim, et ils prendraient aussi bien une bouteille de poison qu'un biberon de lait, parce que leur passion qui est la faim ne s'accorde pas encore chez eux avec la raison. L'homme qui a faim fera attention de ne pas se rassasier de choses dangereuses et de choses qui l'empoisonnent, parce qu'il sait très bien sinon que sa faim se transformera en la puissance de son autodestruction. Donc vous voyez, l'homme livré à lui-même, l'homme qui exerce de façon autonome sa liberté, car la liberté subsiste après la chute, elle subsiste, l'homme qui exerce de façon autonome sa liberté, eh bien, choisit toujours ce qui lui, le mal, et le mal, c'est à la fois ce qui déplaît à Dieu, et c'est ce qui nuit à l'homme. L'homme qui est dans l'illusion de la liberté devient de plus en plus esclave du diable. Il y a donc, mes très chers frères, pour l'homme, deux maîtres possibles. Un qui lui est assigné en quelque sorte par la nature, tel que Dieu l'a créé, c'est-à-dire Dieu, et l'autre qui lui est assigné par la nature telle qu'elle s'est déformée par la chute, c'est-à-dire le diable. Il n'y a que deux maîtres possibles. L'homme est fait pour servir. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas une dignité de liberté, etc., bien sûr, mais il est fait pour servir la transcendance. Si c'est la vraie transcendance, c'est donc Dieu. L'homme est fait pour être esclave de Dieu, et ensuite, parce qu'il est esclave de Dieu, son fils. Et, ou alors, il tombe dans l'esclavage d'un être qui n'est pas divin, mais qui est angélique, donc qui est supérieur par sa nature à la nature humaine, et qui est un ange déchu qu'on appelle le diable. Que Dieu nous protège de lui. Il y a donc deux maîtres possibles, ou bien Dieu, ou bien le diable, et le diable, comme il est trop laid pour être aimé en soi-même, il se revêt du masque du monde. Donc il y a deux maîtres possibles, ou bien Dieu, ou bien le monde. C'est ce que notre Seigneur évoque quand il dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon, c'est un mot, c'est un nom phénicien qui signifie le dieu de l'argent. Et par extension, les richesses. Et comme la richesse est ce qu'il y a de plus désirable dans le monde, par extension, évidemment, la partie désigne le tout, désignant le tout, Mammon, c'est le monde. Il y a ou bien Dieu, ou bien le monde. Et l'homme doit choisir quel maître il veut dépendre, quel maître il veut servir. Que nul ne se dise, dit notre Père Saint-Augustin, que nul ne se dise que eh bien, l'homme se déterminera pour un troisième maître ou une troisième voie. Je me sers moi-même, je sers ma propre ambition, je sers moi-même. Nous sommes le monde dans la mesure où nous ne sommes pas soumis à Dieu. Pourquoi? Parce que le monde n'existe pas en tant que lui-même. Le monde n'est que, finalement, l'usage mauvais que l'homme déchu fait de la création. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vous renvoie au traité de la concupiscence de Bossuet, bien sûr, mais le monde n'existe pas comme Dieu existe. Si nous sommes esclaves du monde, si nous sommes esclaves du monde, nous ne sommes pas donc esclaves de Dieu. Si nous sommes esclaves de Dieu, nous échappons au monde, de telle sorte que si nous ne sommes pas esclaves de Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous serons dans une forme ou une autre d'esclavage du monde, fût-ce l'esclavage de notre volonté propre, l'esclavage de notre volonté souveraine, si nous sommes, je sais pas, si nous sommes très riches, nous pouvons faire absolument tout ou presque tout ce que nous voulons, et nous ne suivons de volonté de personne sinon de la nôtre, mais comme notre volonté est faite pour adhérer à celle de Dieu et se calquer sur elle, la volonté de l'homme qui n'est pas alignée, rectifiée, orienté sur celle de Dieu, est une forme du monde comme une autre. Et nous sommes esclaves du monde. Il n'y a donc, mes très chers frères, persuadons-nous-en, il n'y a donc que deux maîtres possibles pour l'homme, ou bien Dieu, ou bien le monde. Or, saint Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, dit-il, l'amour du Père n'est pas en lui. Et tout ce qui est dans le monde, c'est la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont les fameuses trois concupiscences qui sont la triple concupiscence qui est la racine du monde. Si nous ne sommes pas esclaves de Dieu, nous sommes esclaves du monde, c'est-à-dire que nous sommes esclaves de celui qui est incapable de nous aimer, puisque Dieu seul peut nous aimer. L'amour, celui qui aime le, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, dit l'Écriture. Il y a donc ici des erreurs à relever, et nous en avons déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais il faut le dire, et d'ailleurs nous avons reçu des commentaires peu, ou des réflexions peu amènes, peu amènes sur ce sujet. Je comprends que ça puisse irriter ce que nous avons à dire, mais en même temps, si nous ne le disions pas, nous serions des trompeurs, et nous voulons être, malgré notre indignité, mes très chers frères, nous ne voulons pas être des aveugles qui guident des aveugles, parce que le monde est plein de fausses, dans lesquels ce genre de procession tombe. Une erreur que l'on fait quand on est catholique en modernité, c'est de penser qu'à cause de la modernité, il faut quand même aimer le monde, puisque si dans le monde, dans la société traditionnelle, on pouvait à la rigueur ne pas aimer le monde, encore qu'il fallait bien comprendre ce que ça signifie, etc. Donc je vous laisse parler. Si dans la société traditionnelle, à la rigueur, on pouvait ne pas aimer le monde, mais dans le monde moderne, comme nous marchons sur la tête, si les catholiques n'aiment pas le monde, qui l'aimera? Puisque nous voyons les modernes faire du mal à la création, par la pollution, par les abus, par les lois iniques, etc. Donc il nous faut bien aimer le monde. Il y a quelque chose d'infinitésimalement vrai dans ce discours, qui consiste à dire que la modernité fait n'importe quoi. Maintenant, à partir de là, tout ce que nous avons dit est faux. Parce que, en aucun moment, en aucune façon et à aucun moment, le chrétien n'est autorisé à aimer le monde. Quand bien même le monde ne s'aimerait plus, il ne peut pas aimer le monde. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça signifie, monde, etc. Le monde, tel que le chrétien veut l'aimer, se traduit par l'expression patrie charnelle. Alors j'imagine que ceux qui n'ont pas entendu les sermons précédents doivent sursauter en disant comment, c'est ça qui s'oppose au mondialisme, c'est le discours par excellence qui montre, qui fait la discrimination entre les hommes traditionnels, les hommes bien pensants et le reste des modernes qui fait n'importe quoi, qui est complètement dans un esprit de dirigé par des apatrides, qui veulent faire de nous des pions universellement échangeables, interchangeables, etc. Attendez, n'allez pas trop vite. En tant que catholiques, nous ne recevons que ce que l'Église nous donne. Nous ne recevons que ce qui procède de la mentalité traditionnelle et des maximes traditionnelles. Or, la notion de patrie charnelle, je sais qu'elle est extrêmement développée aujourd'hui, mais elle ne vient pas de la tradition, elle vient de Barès, qui était le fondateur du nationalisme tel que nous le connaissons et qui était un mécréant, sinon un athée. Et tout le monde le sait, et elle vient aussi de ce chantre, de cette espèce de socialiste converti qui était le poète Péguy, et qui a fait beaucoup de bêtises, et qui aurait mieux fait de se taire et de faire pénitence pour toutes les bêtises qu'il avait dites jusque-là, et d'arrêter de parler de toutes sortes de choses, et de pontifier d'une façon, de façon, la façon la plus ridicule qui soit. Donc vous voyez, si nous acceptons des maximes qui sont des maximes qui heurtent de front les idées majoritaires de la modernité, nous ne les acceptons que dans la mesure où la tradition nous les donne. Nous ne les acceptons pas dans la mesure où on les a forcées dans notre bouche À un moment où la modernité était moins évoluée, ou moins dégénérée, si vous voulez, ça dépend, enfin, mettons, moins évoluée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous, en tant que catholiques, au XXIe siècle, nous ne nous sentons pas obligés d'adhérer à des maximes qui ont été forgées par des gens qui méprisaient l'Église, dans le fond. La notion de patrie charnelle a été forgée en opposition à certains peuples qui se présentent comme déracinés, alors qu'ils sont enracinés chez eux en réalité, mais ils se présentent comme déracinés et déracinants. Et on a dit, alors à l'esprit de la banque apatride, du capital apatride, on oppose l'enracinement, la patrie charnelle, la carnalité de l'enracinement dans le monde. Croyez-vous, mes très chers frères, qu'un Barès ait été ignorant du commandement de l'apôtre? Mais pour un Barès et pour les autres, d'ailleurs tous les autres, ou ceux qui sont allés le voir quand ils étaient jeunes et qui ont vieilli dans ses maximes, et qui ont enseigné les autres, et qui sont passés pour des catholiques, eh bien, pour quelqu'un comme lui, Saint Jean n'est qu'un juif qui déracine les braves païens qui ont le malheur d'avoir été endoctrinés, enjuivés par le christianisme. Parlons, appelons un chat comme un chat un chat, parlons, disons les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas christianiser les néo-païens. On ne peut pas christianiser le paganisme. D'ailleurs, les néo-païens ne sont pas des païens, ce sont des apostats. Il y a donc dans cette notion de patrie charnelle quelque chose qui est un défi de front à la doctrine de Saint Jean. Alors vous allez dire, oui, mais entre nous, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même quelque chose de. Il y a une trace quand même un peu trop vétérotestamentaire dans le Nouveau Testament? Est-ce que, après tout, Marcion, hein, enfin, bien sûr, c'est un hérétique, mais enfin, est-ce qu'il n'y avait pas une intuition? On l'a entendu, on l'a entendu, on l'entend tout le temps. On l'entend tout le temps. La réponse est non, bien sûr que non. On va dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce qu'il ne faut pas bien comprendre? Est-ce qu'il ne faut pas remettre ça dans son contexte? Mais justement, nous essayons de le remettre dans son contexte. Et le contexte rend indubitable qu'on ne doit pas aimer le monde, qu'on ne doit pas aimer tout ce qui est dans le monde, parce que sinon, nous ne sommes plus aimés par le Père Céleste. Et le Père Céleste, c'est le Dieu bon qui nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'il faut céder au capitalisme. Alors oui, je pourrais vous montrer de tout ce qu'on m'a dit. Voilà, vous allez dans le sens de d'Attali, vous allez vous ruiner l'enracinement, vous ruiner le vrai patriotisme, le vrai patriotisme. Le patriotisme, ça date de la Révolution. Avant, il y avait quoi? Il y avait la soumission au seigneur légitime, soumission au roi, et la vie selon l'État. Et la vie selon l'État, c'est la vie aussi selon là où Dieu vous a placé. Et la vie là où Dieu vous a placé nécessite que nous prenions, que nous participions justement, que les pères de famille, que ceux qui sont en position d'autorité participent au bien commun. Et pour participer au bien commun, un minimum, il faut l'aimer. Voilà comment on aime l'endroit où Dieu nous a placés, mais sans s'y attacher. On l'aime par devoir. On l'aime même d'une façon très profonde. Mais on n'est pas dans la défiance ou le défi lancé à la maxime de Saint Jean, et donc à notre Seigneur Jésus-Christ, puisque Saint Jean, ce n'est autre que le Saint-Esprit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon en même temps. Vous ne pouvez servir Dieu et le monde en même temps. Donc il y a une grande erreur, mes très chers frères, qui s'enracine d'ailleurs dans l'orgueil romantique, dans un certain orgueil romantique. Ce n'est pas quelque chose qui remonte au-delà de la Révolution, bien entendu. Ce sont des choses très, très récentes, bien sûr, qui sont plus ou moins en opposition, plus ou moins en réaction, plus précisément avec la modernité telle que elle fleurit dans sa pluralité. Mais en réalité, ce sont encore des erreurs. Vous voyez? Il ne faut pas aimer le monde, et avant même, non, fermez votre bouche, avant même de dire oui, mais quand même, il faut avoir adopté ce principe du fond du cœur et être persuadé qu'on ne peut pas être catholique si l'on ne l'intègre pas. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire ni la patrie charnelle, ni le moi, ni la famille, ni les institutions, ni quoi que ce soit dans le monde, ni les spectacles de la nature. Rien ne doit être aimé, Dieu doit être seul et premier aimé. C'est quand même extraordinaire que ceux qui citent à tort et à travers Sainte Jeanne d'Arc avec sa devise Dieu premier servi, soient les premiers à mettre Dieu, si l'on peut dire, en dernier. C'est quand même extraordinaire. Écoutez un peu les saints qui parlent et ne les embrigadez pas dans vos délires. Alors vous allez dire, mais où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce que vous voulez faire de nous des apatrides? Non, bien sûr que non. Mais on n'est pas comme il faut quand on s'oppose par principe à l'Écriture sainte, c'est-à-dire à la voix de Dieu. on est, selon Dieu, comme on doit être, que dans la mesure où l'on intègre ce que Dieu nous oblige de croire sous peine d'être damné. Il y a encore un orgueil, une erreur qui consiste dans l'orgueil romantique de l'adoration de nos cathédrales. Nos cathédrales, c'est... ça ne remonte pas, cela ne remonte pas avant les années 1850. Quand les journalistes et toute la clique des disciples de Lamennais qui étaient restés dans l'Église se sont mis à considérer le Moyen-Âge comme le summum de la civilisation chrétienne, ce qui n'est pas faux sous un certain rapport, mais et de dire voilà nos cathédrales, nos églises, la grandeur de la France, et comment tout ceci est une manifestation de l'orgueil, disait l'abbé Fleury. Regardez, quand le christianisme a commencé à dégénérer, il s'est enhardi à faire des actes d'orgueil. Alors vous allez dire, oui, mais est-ce que c'est tout ce qui nous reste? Oui, ben, vous savez, à choisir, est-ce que nous préférerions que nous reste la foi du Moyen-Âge ou les églises du Moyen-Âge? Je préférerais que ce soit la foi d'un Saint Bernard ou d'un Saint Thomas qui nous reste, plutôt que les monuments, à choisir. Vous allez dire, vous crachez sur des monuments. Non! Je suis très content que les cathédrales existent encore, parce que cela, c'est comme l'écorce d'une amande. On se souvient qu'il y a eu un fruit savoureux à l'intérieur, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une écorce, vous voyez? Plutôt que de se glorifier charnellement des vestiges, finalement, de l'orgueil de nos pères au Moyen-Âge, nous préférerions qu'aujourd'hui, nous préférerions sincèrement vivre dans des cabanes en bois et avoir un pape et avoir des évêques et avoir une église et des laïcs et des prêtres bien, bien ordonnés, selon l'ordre des choses, et qui vivent d'une façon simple et d'une façon catholique. Voilà ce que nous préférerions avoir, plutôt que d'avoir des coquilles vides auxquelles on met le feu et qui finalement deviennent ce qu'elles sont. C'est-à-dire que, en fait, dans le fond, nous avons la monnaie de notre pièce, nous avons voulu bâtir des bâtiments qui, à la gloire bien sûr de Dieu, et puis surtout des constructeurs, des bourgeois de la ville, et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les bourgeois qui ont fait la révolution trouvent que tous ces bâtiments somptueux sont trop chers et ils préfèrent y mettre le feu. Donc voilà des considérations qui doivent nous montrer, mes très chers frères, que si nous aimons le monde, et que surtout si nous n'acceptons pas ces paroles terribles de notre Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre comment nous situer et comment vivre dans ce monde dans lequel Dieu nous a placés pour que nous y soyons fidèles et que nous résistions à tous les pièges du diable, à commencer par le délire et le n'importe quoi de la modernité. C'est le créateur et l'ordonnateur même du monde qui nous fait un devoir de ne pas aimer le monde. Vous allez dire, mais est-ce qu'il n'est pas écrit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, il a tant aimé le monde dont nous faisions partie, nous les enfants du diable, afin que par le Fils de Dieu, nous sortions du monde. Oui, mais s'il l'a aimé, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il veut le régénérer? Il veut... Nous y reviendrons, nous verrons que la réponse est certainement pas, et que elle est paradoxale, parce qu'en réalité, si nous obéissons scrupuleusement, enfin en tout cas très sérieusement, à la volonté de Dieu, curieusement, toute l'impuissance de ceux qui s'imaginent qu'il faut aimer le monde et qu'il faut être charnellement enraciné sera mise en lumière et sera en quelque sorte réfutée par les œuvres concrètes et bonnes que nous ferons et qui, curieusement, auront une épaisseur ontologique et politique et sociale. Mais ce n'est pas là leur but. Le but, c'est d'obéir à Dieu. Je sais que c'est un peu dense à entendre et qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être commenceront, vous mes très chers frères ici, peut-être aussi à ne plus écouter en disant « mais c'est vraiment du délire, qu'est-ce qu'on fait là ?» Attendez un petit peu, attendez la fin et vous verrez. C'est le créateur et l'ordonnateur même du monde qui nous fait un devoir de ne pas aimer le monde. Le monde est une illusion. C'est une illusion, non pas la création de Dieu, mais l'usage que l'homme charnel en fait. Ceux qui aiment le monde, pour les bonnes raisons, entre guillemets, sont dans l'illusion. Il n'y a pas de bonne raison d'aimer le monde. Ceux qui ne l'aiment pas, seuls, mes très chers frères, écoutez bien si vous êtes encore là, ceux qui n'aiment pas le monde, seuls, ont prise sur lui. Regardez tous ceux qui méprisent Saint Jean, qui méprisent l'Évangile, qui méprisent l'enseignement de l'Église et de notre Seigneur, et qui essayent de faire des choses, à quoi arrivent-ils? À rien. Ils n'arrivent qu'à s'entre-dévorer. N'aimez pas le monde, Et curieusement, vous aurez une prise sur le monde. Pourquoi? Parce que aimer le monde, c'est se mouvoir dans l'illusion. Ne pas aimer le monde, c'est être dans la réalité. Et la réalité, pour nous, êtres humains, en attendant notre glorification, c'est le monde tel que Dieu l'a créé. Les structures du monde, telles que Dieu les veut, les structures familiales, les structures patriarcales, les structures de l'ordre des choses, c'est ça la structure du monde. Vivez, aimez le monde contre l'ordre de Dieu, vous n'aurez aucune prise sur le monde. N'aimez pas le monde, vous vivrez dans le monde tel que Dieu le veut. N'aimez pas le monde et vous ne serez pas utopiste. Car les utopistes se dirigent dans le monde selon les principes de tel ou tel maître, de tel ou tel penseur, de telle ou telle philosophie, fût-ce Saint Thomas passé à la moulinette des néotomistes. Ceux qui ne vivent pas dans l'amour du monde, ceux qui n'aiment pas le monde, ceux qui combattent en eux et autour d'eux la triple concupiscence, se dirigent dans le monde selon les principes du créateur du monde, qui en est le rédempteur, qui est le rédempteur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un, ou bien et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et dédaignera l'autre, mes très chers frères. Et ce n'est pas une surprise, nous le disons de temps en temps malheureusement, mais vous savez, les néo-chrétiens méprisent souverainement notre Seigneur Jésus-Christ. Pour diverses raisons que nous n'évoquons pas ici, mais ils le méprisent souverainement. Ils lui préfèrent d'autres personnages, ils le méprisent, ils l'insultent en secret, ou alors ils l'adorent, mais comme certains, dans la mesure où il a la tête et le visage de l'Apollon hyperboréen, de tel, de, je ne sais pas moi, de Thor, Odin, ils s'imaginent qu'ils peuvent en quelque sorte arianiser leur Christ. Voilà quelque chose qui est un mépris total pour le Christ. Le Christ qui est le Verbe éternel de Dieu, par qui tout a été fait et en qui tout subsiste. Méprisez le Christ, vous êtes en dehors de la réalité. Essayez d'avoir une influence sur le monde en méprisant le Christ, et vous allez voir qu'en fait, vous allez être happé, et vous êtes d'ailleurs déjà happé, par le tourbillon de la stérilité du monde. Les néo-chrétiens méprisent souverainement le Christ. Or, ne bénéficient des soins de la Providence que ceux qui sont entièrement obéissants et respectueux envers notre Père Céleste. N'aimez pas le monde ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si vous aimez le monde, la Providence ne fera jamais rien pour vous. Et ce n'est pas la peine d'attendre qu'elle vous aide dans l'éducation de vos enfants, dans la construction de votre foyer. Ce n'est pas... Tant de gens qui combattent pour le Christ, en réalité, méprisent le Christ fondamentalement. Ils le méprisent fondamentalement. Et d'où là vient leur stérilité, leur incapacité à faire quoi que ce soit, et le fait qu'ils se gargarisent de mots, et que plus ils se gargarisent de mots, plus ils sombrent dans l'utopisme, et plus ils sombrent dans l'utopisme, plus ils ont l'impression d'être justement anti-utopistes, puisqu'ils sont critiques de l'utopie des autres. Méprisez le Christ, le Père Céleste ne vous aimera pas. Aimez le Christ, n'aimez pas le monde, et le Père Céleste déploiera les trésors de grâce et de miséricorde que sa providence a à la disposition de ceux qui l'aiment. C'est mathématique. Notre Seigneur, dans son discours, dit que les oiseaux, c'est-à-dire les animaux, et les plantes même, sont les objets de l'attention divine. A fortiori l'homme, mais pas n'importe quel homme, pas l'homme qui aime le monde, l'homme qui n'aime pas le monde. L'homme qui s'efforce de ne pas aimer le monde, l'homme qui combat la triple concupiscence en lui-même et qui est la racine même du monde qu'il ne faut pas aimer. L'homme ne peut être à la fois l'objet de la Providence et mépriser le Christ et aimer le monde. Ou bien il aimera le Christ, il aimera Dieu, et la Providence, il n'aimant pas le monde, et la Providence se manifestera pour lui, ou bien il cherchera néanmoins, nonobstant les interdits de la religion, il cherchera à aimer le monde d'une certaine manière, ne serait-ce que pour l'améliorer, pour le conquérir, le vrai monde, la patrie charnelle, etc. Et, regardez-le, il sera la proie de ce qu'il y a de pire dans le monde. Je ne parle pas des démons, je parle des hommes, de ces méchants hommes qui sont dans le monde, spécialement le monde moderne, et qui finalement, ils sont à l'aise, puisque eux... sont les esclaves de Satan. Dans la seule mesure où nous n'avons que Dieu seul pour maître, Dieu s'occupe de nous. Voilà pourquoi notre Seigneur dit « Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Il ne dit pas à des chrétiens qui sont militants, qui veulent avoir un impact politique, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu en leur disant en quelque sorte « Ne vous occupez pas de politique, ne vous occupez pas des problèmes du monde, renfermez-vous dans une piété plus ou moins éthérée, et puis vous verrez que le bon Dieu compensera. » Et alors évidemment, les maîtres viennent et puis leur disent, mais non, regardez, si vous êtes là tous en train de sombrer dans la mystique, rien ne sera jamais fait. Ils se trompent fondamentalement parce qu'ils n'ont pas entendu le début du discours de notre Seigneur. N'aimez pas le monde, nul ne peut servir de maître. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Alors vous allez dire, bon, d'accord, admettons que vous ayez raison. J'espère que j'ai raison, mes très chers frères, sinon qu'est-ce que je vous dis? Donc, il se trouve que, puisqu'il ne faut pas aimer le monde, il faut donc chercher d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Deux choses sont à chercher, le royaume de Dieu et sa justice. Pour certains auteurs, c'est un redoublement tout à fait juste. Et pour d'autres auteurs, et nous développerons plutôt cette perspective-là, ce sont deux choses distinctes et indissociables comme le sont la théorie et la pratique, la doctrine et la mise en pratique. Le royaume de Dieu, c'est l'orthodoxie. La justice, c'est l'orthopraxie, si vous me permettez d'être un peu pédant. La justice, c'est la pratique de cette orthodoxie. Il est impossible d'accéder au royaume de Dieu par le biais de l'hétérodoxie. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, nous passerons très rapidement, comprenne qui pourra, mais on ne peut pas accéder au royaume de Dieu, et donc, c'est-à-dire, on ne peut pas être à la source du royaume de Dieu, la source de la doctrine, et donc, pour être dans la capacité de la mettre en pratique, puisque l'un ne va pas sans l'autre, la grâce qui nous est donnée pour entendre la vraie doctrine nous sera donnée aussi pour la mettre en pratique. Mais si l'on n'est pas là où est l'Église, si l'on n'est pas dans la pureté doctrinale, si l'on n'est pas, et encore que beaucoup parlent de pureté doctrinale et qui sont très impurs, mais on est dans une impureté radicale, c'est-à-dire de racine, et contagieuse. Ne nous disons pas, je vais là, mais d'une certaine manière, je fais la part des choses, je sais reconnaître le royaume de Dieu au milieu du royaume du diable. Et les deux sont incompatibles. Ils ne peuvent pas être mélangés. Vous allez dire, oui, mais le bon grain est livré. Oui, mais le bon grain est livré, c'est dans le champ de Dieu. C'est pas ailleurs. On ne parle pas en train de parler de l'égout qui est à côté du champ et dans lequel ne nagent que des ordures. Alors, je ne traite personne d'ordure ni d'égout. Je dis simplement que le bon grain est livré, c'est quelque chose qu'on trouve dans le champ du Seigneur. Le champ du Seigneur, c'est l'endroit où se manifeste la pratique de la doctrine. En amont, il faut que la doctrine soit très pure. On ne peut pas recevoir la doctrine pure là où il y a des unions avec des hérétiques, là où il y a de l'hétérodoxie, là où il y a des choses impures. Purifions-nous, mes très chers frères. Sortez du milieu d'eux. Donc voilà le royaume de Dieu, c'est l'orthodoxie. Voilà pour le royaume de Dieu. Ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Et cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » La justice, c'est la pratique de l'orthodoxie. Ce sont des paroles terribles, mes très chers frères, que ces paroles qui consistent à dire « Le catholicisme est la vraie religion. La religion chrétienne est la seule religion qui sauve. » Ce sont des paroles très vraies, mais combien de catholiques seront-ils sauvés? Ce sont des choses très vraies, mais tous les auteurs, depuis le commencement du christianisme, nous ont toujours dit « Sans les œuvres, la foi est vaine. » Bien sûr qu'on ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église, en dehors de la religion chrétienne. Et j'aimerais que nous soyons tous d'accord sur ce point, ce qui n'est pas toujours évident. Mais bien sûr qu'on ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église, mais qui se sauve au sein de l'Église? Il y a l'ivraie, il y a les pierres, il y a les soucis du siècle, les épines, puis de temps en temps, il y a les oiseaux aussi qui viennent, et qui par la permission divine, viennent manger le bon grain. Ce sont des paroles terribles, mes très chers frères. Nous devons les dire parce que c'est la vérité. Et si quelqu'un nous dit, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que dans l'Église catholique qu'on peut être sauvé? Il faut dire, oui, je le crois très fermement et d'une façon univoque. Mais en même temps, il ne s'agit pas simplement de le croire. Il s'agit aussi d'en avoir les actes, les œuvres. Sinon, nous pourrons très bien aller en enfer en confessant ce dogme qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et nous aurons raté le salut. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas eu les œuvres qui découlent nécessairement, qui doivent nécessairement découler de l'orthodoxie, de la profession de foi de l'orthodoxie. Aucun démon n'est hérétique en enfer. Ils sont tous orthodoxes. La seule chose, ça ne leur sert à rien. Combien de catholiques seront-ils sauvés? Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, dit notre Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors vous allez dire, ce sont des paroles terribles, expliquez-nous comment mettre en pratique la justice, comment chercher la justice, c'est-à-dire comment pratiquer l'orthodoxie. Eh bien, je vous dirai plusieurs choses, plusieurs points, plusieurs conseils, je vous en donnerai 5, 4. Premièrement, ne jamais... Comment? Alors la question c'est, et ce sont des réponses à la question, comment chercher avant tout la justice de Dieu, le royaume de Dieu, donc c'est l'orthodoxie, la justice qui est la mise en pratique de l'orthodoxie. Premièrement, ne rien faire qui ne puisse être et qui ne soit sanctifié. C'est-à-dire que tout devant être accompli pour l'amour de Dieu, nous ne devons faire aucune action qui ne puisse être faite pour l'amour de Dieu. Alors n'allez pas faire des actions mauvaises en disant « voilà, je tue mon prochain, mais c'est pour l'amour de Dieu hein. ». Il faut que ce soit des actions, bien entendu, enfin ça c'est une caricature, mais enfin on pourrait entrer dans les détails, et ça ferait du mal aux gens, ça ferait du mal à l'entendre. Attention, pour l'amour de Dieu, il faut que ça soit une œuvre qui soit commandée par Dieu, nous y reviendrons. Donc ne jamais rien faire qui ne puisse être sanctifié, et évidemment qui ne soit sanctifié, c'est-à-dire qui ne soit fait positivement pour l'amour de Dieu. Vous allez dire, ça réduit le champ de possibilités de la vie chrétienne. Ne vous inquiétez pas, mes très chers frères, si déjà nous ne faisions jamais, pour l'amour de Dieu, que les seules actions qui peuvent être faites pour l'amour de Dieu, nous serions saints déjà, canonisables. Ce qui n'est pas rien, et je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire en plus. Donc, ne rien faire qui ne soit sanctifié, et qui ne puisse être sanctifié. Voilà comment on cherche... avant tout, la justice de Dieu, pratique. Deuxièmement, il faut que la règle de nos actions soit notre devoir, qui nous insère dans le monde créé par Dieu pour Dieu. Vous allez dire, ah mais du coup, vous parlez du monde. Et je parle du monde de Dieu, je parle de ce jeu dont Dieu a fixé les règles afin que nous puissions être gagnants. Je ne parle pas du monde tel qu'il s'intellige lui-même, c'est-à-dire dans la folie du monde, le monde tel que les hommes le font, et tel que les hommes l'aiment, tel que les hommes le pensent, tel que la triple concupiscence le forge, qui est une illusion. Bossuet dit dans son traité, de ce monde-là, Dieu ne veut rien avoir, avec ce monde-là, Dieu ne veut rien avoir à faire. C'est un monde que Dieu méprise, pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Il faut que, pour que nous pratiquions la justice, mes très chers frères, pour que nous cherchions avant tout la justice de Dieu, c'est-à-dire que nous la pratiquions, il faut que la règle de nos actions soit notre devoir qui nous insère dans le monde créé par Dieu pour Dieu. Il n'est jamais absurde, mes très chers frères, et ça je parle surtout à ceux qui ont des devoirs d'État qui sont humbles, il n'est jamais absurde de réaliser son devoir, même si l'on n'en voit pas la finalité, cosmologique si j'ose dire, même si elle nous apparaît futile. La mère de famille qui élève ses enfants, qui prépare tous les jours les repas, qui lave les vêtements de toute la famille, qui fait la poussière, qui fait le ménage, qui s'occupe de son mari, qui soigne, qui répare, qui recoue les vêtements, etc. Il ne faut pas qu'elle se dise finalement je fais des choses absurdes, des choses qui sont répétitives et qui n'ont pas de sens. C'est faux. Il ne faut pas qu'elle se dise « j'ai l'impression de me consumer en ne faisant rien ». Elle dirait exactement, c'est la même sagesse, elle dit exactement la même chose que la graine qui, au début de l'hiver, est en train de, en quelque sorte, de mourir, et de mourir, pour parler comme notre Seigneur, dans le sol. Elle est en train de dire « mais je ne sers à rien, je pourrais peut-être être moulu et transformé en gâteau, en que sais-je, en hostie, que sais-je, mais je ne sers à rien, je suis en train de mourir dans le sol ». Attendez un peu, soyez fidèles à mourir, enterré dans le sillon, et vous verrez que dans quelques mois, vous porterez 100 pour 1 ou 60 pour 1, comme dit notre Seigneur. que personne ne s'imagine, que ne se laisse aller à cette suggestion diabolique que le fait de faire son devoir nous conduit dans l'absurdité ou de la routine. Au contraire, il n'y a que dans la routine que l'on arrive à se perfectionner. Donc il faut que la règle de nos actions soit notre devoir et notre devoir seul. Le devoir tel que Dieu, attention, le devoir tel que Dieu l'impose, c'est-à-dire les divers devoirs. Il y a plusieurs états dans l'Église, dans la vie chrétienne, il y a plusieurs états de vie chrétienne, mais en tout cas on est certain que certains n'existent pas. L'état de militant, l'état de laïc pontifiant, l'état de, je ne sais pas moi, même de prêtre désordonné, etc., n'existent pas. Voilà, je parle aussi des autres parce qu'il ne faut pas taper toujours sur les uns. Cela n'existe pas. En revanche, il y a un certain nombre de devoirs. Je ne vais pas vous aller m'abaisser par complaisance à vous dire choisissez lequel vous voulez. Demandez plutôt lequel vous voulez. Demandez plutôt à Dieu quel est votre devoir dans lequel il veut que vous soyez. Installez-vous-y. Si vous n'y êtes pas porté par la Providence directement, certains devoirs sont, nous, on tombe dedans, d'autres devoirs, on y entre. Eh bien, trouvez le devoir que Dieu vous destine, ou plutôt auquel Dieu vous destine, et sanctifiez-vous-y. Troisième façon, troisième règle, troisième point, la station dans l'état est l'unique manière de persévérer et de ne pas errer. La volonté de Dieu ne se connaît pas par les résultats d'une action qu'on estime bon, mais par le fait qu'elle nous est imposée par l'ordre des choses. J'ai l'impression de ne pas être trop bête. Je vais me lancer dans la théologie, dans la littérature, dans l'histoire, et je vais faire un blog, je vais faire des choses, je vais inonder l'internet d'articles percutants, et pas bête du tout, hein, c'est pas ça la question. Et il va y avoir plein de retours, les gens vont mettre plein de petits pouces bleus, il va y avoir plein de gens qui vont me poser des questions pour savoir s'ils peuvent se faire baptiser par le premier païen qui passe, et je vais dire oh, « allez-y, je vous donnerai des centres de messe après ». Voilà. Et ensuite dire « voilà, finalement, il y a du résultat, c'est donc que Dieu bénit ». Non ! Non, non ! Parce que sinon, les cambrioleurs qui font un beau casse, si j'ose dire, pour parler vulgairement, et qui ne sont pas pris, peuvent dire « ça montre bien que Dieu nous a bénis ». Ah ! Si c'est le résultat tel que nous l'appréhendons qui doit déterminer notre jugement sur l'état dans lequel nous sommes, alors évidemment, nous risquons de nous tromper. Mais vous allez dire « je suis dans un état sanctionné par l'Église, sanctionné par la tradition, et il se trouve que je n'ai aucun résultat. Eh bien, je vais vous dire, persévérez-y. Parce que probablement que les résultats sont là où vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez, ces résultats, probablement qu'au ciel, dans la lumière divine. La mère de famille, l'humble veuve qui persévère à faire ce qu'elle doit faire, qui sert les saints, qui exerce l'hospitalité, eh bien, elle ne voit rien, et peut-être même que les gens oublient de lui dire merci. Mais son trésor s'accumule au ciel, elle ne doit pas y penser, sinon elle risque de le dissiper en ayant sa récompense ici-bas. Vous voyez, ce n'est pas tellement le résultat d'une action, on est toujours content quand Dieu bénit, bien entendu, et il bénit, de temps en temps il bénit quand même. Mais enfin, il se trouve que ce n'est pas le résultat qui détermine si une action est bonne ou mauvaise, si un état est bon ou mauvais, légitime ou illégitime. C'est le fait qu'il existe dans la volonté de Dieu et qu'il ait été imposé par l'ordre des choses. Ensuite, on peut donner encore un quatrième point, on pourrait dire encore plein d'autres choses, mais il faut se limiter, c'est que l'inquiétude, notre Seigneur dans cet évangile parle tout le temps de l'inquiétude. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiets, l'inquiétude, ils sont inquiets, de que vous inquiétez-vous, etc. L'inquiétude est la caractéristique des païens. L'inquiétude, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de ne pas être en repos. Vous allez dire, oui, mais je suis père de famille, je suis inquiet pour ma famille. Soyez actifs, soyez diligents, soyez intelligents. Soyez, si j'ose dire, inventifs pour savoir comment faire prospérer votre devoir d'État. Ça, c'est vrai, mais ne soyez pas inquiets. L'inquiétude, c'est le fait de ne pas être en repos. Une action, théoriquement du moins, une action qui nous sanctifie, par laquelle nous nous sanctifions, c'est-à-dire une action bonne, doit être accomplie dans la quiétude, c'est-à-dire dans le repos. Pas au sens quiétiste du terme, mais dans le repos, c'est-à-dire dans la stabilité qui nous est donnée par l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. L'inquiétude est la caractéristique des païens. Elle provient d'une défiance ou d'une ignorance de Dieu et d'une avidité pour le monde. L'inquiétude vient de l'amour du monde. Être esclave de Dieu, mes très chers frères, c'est être esclave de la justice. C'est ne pas mépriser Dieu, c'est donc aimer Dieu. Et c'est pour cela que Saint Paul, nous terminons par ces considérations, Saint Paul dit dans l'épître aux Galates, qui est l'épître d'aujourd'hui, mes frères, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Vous voyez que chercher donc la justice de Dieu, après avoir cherché le royaume de Dieu, et en même temps le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est en fait marcher selon l'esprit. Vous allez dire, mais on retombe toujours dans les mêmes considérations. Ben, c'est peut-être pour ça que nous sommes chrétiens, que nous ne sommes pas un jour mahométan, un jour hindouiste, et un autre jour chrétien. Bien sûr que c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que vous croyez? C'est toujours la même chose, mais est-ce que vous connaissez bien ces choses qui vous sont tellement familières? La plupart du temps, quand on se lasse d'entendre les maximes de la religion chrétienne, ce n'est pas parce qu'on les connaît trop bien, c'est parce qu'on ne les met pas en pratique. Parce que ne vous inquiétez pas que si vous les mettiez en pratique, vous seriez heureux qu'on vous les répète pour pouvoir vérifier si vous les mettez aussi bien en pratique, aussi parfaitement en pratique que vous le faites, que vous le pouvez. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Le monde, c'est le mouvement centrifuge qui fuit Dieu, qui déteste Dieu, qui méprise Dieu, qui se moque de Dieu, qui embrigade Dieu, comme vous voulez, mais qui n'est pas esclave de Dieu. Le monde, c'est le mouvement centrifuge. Il y a donc une séduction, une aspiration, un entraînement dans le monde, et c'est à cela que nous ne devons pas nous laisser aller. Et c'est cela qui s'appelle accomplir les désirs de la chair. Résister au monde, c'est se combattre soi-même fondamentalement. Résister au monde, c'est pas écrire des slogans sur son masque quand on sort pour bien faire comprendre qu'on le porte, mais qu'en fait on ne devrait pas le porter, etc. Attention, résister au monde, c'est se combattre soi-même. C'est combattre l'arrogance, c'est combattre la défiance envers Dieu, c'est combattre la petite idée qu'on a de la vie chrétienne et qui semble ne pas coïncider avec ce que nous enseigne l'Église et nous inspire de faire un article pour montrer qu'en fait c'est nous qui avons raison. Attention, résister au monde, c'est se combattre soi-même. Celui qui se combat, qui ne se combat pas soi-même, est esclave du monde. Celui qui se combat soi-même, il se peut très bien que, eh bien, il soit plus dans la justice qu'on peut l'imaginer, qu'il peut l'imaginer, et que l'amour de Dieu croissant en lui va finir par expulser ou par réduire une portion congrue l'amour du monde. Résister au monde, c'est se combattre soi-même. Se traiter, il faut se traiter soi-même, non pas simplement comme un champion qui veut gagner la couronne, bien sûr, saint Paul nous le dit, mais des fois on s'imagine vraiment être un champion. Il faut se traiter soi-même comme un ennemi, comme un traître, comme un lâche. C'est-à-dire, il faut se renier soi-même. Vous allez dire, oui, mais si je me renie moi-même, si je me traite comme ça, je vais plus avoir de force pour... Bon, ben, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez jamais essayé, mes très chers frères. Si nous nous traitons nous-mêmes comme des ennemis, comme des traîtres, nous nous défions de nous-mêmes comme des traîtres, et que nous nous méfions de nous-mêmes comme des lâches, comme en tant que lâche, c'est que nous nous renions véritablement nous-mêmes, et donc ça veut dire que nous imitons réellement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes sur la voie qui fera de nous plus lui-même, ou plutôt de lui plus nous-mêmes, que nous ne sommes nous-mêmes. Se renier soi-même, c'est ne pas commettre les œuvres de la chair. Écoutez ce que dit saint Augustin. Vous êtes poussé de Dieu, mais c'est afin que vous agissiez avec lui. Et votre action est bonne lorsque vous la faites par le mouvement de celui qui est souverainement bon. Car Dieu ne pousse pas les hommes comme si c'était des pierres mortes et inanimées. C'est pourquoi, nous dit toujours saint Augustin, c'est pourquoi nous devons contribuer tout ce que nous pouvons, donc à tout ce que nous pouvons, de notre part pour l'efficacité, par l'efficace de notre volonté. Il faut que notre volonté se mette en branle sous la motion de la grâce, et cette grâce, nous l'avons reçue par le baptême. Vous allez dire, mais j'ai l'impression que je l'ai perdue, cette grâce. C'est pour cela qu'il faut la recouvrer. Mais en même temps, par le baptême, il y a la grâce en nous, qui peut être perdue malheureusement, mais il y a aussi la marque, le caractère d'enfant de Dieu. Alors, ce n'est pas ça qui va nous faire aller au ciel, à strictement parler, puisqu'il faut que la grâce soit là avec le caractère. Mais ce caractère est comme une marque que l'on peut montrer à Dieu en disant, un peu comme un animal qui aurait été marqué de la marque de son maître, et puis qui s'est égaré, et qui revient, alors qu'il a été en quelque sorte oublié, qui revient et qui dit à son maître, « Regardez, je porte votre marque imprimée sur moi. Que va faire le maître ?» Il va bien sûr l'accueillir dans son troupeau à nouveau. Il ne peut pas lui dire, ben non, tu es parti, je ne te reconnais plus. Nous avons la marque de Dieu en nous. Nous n'avons pas la marque de la bête, nous avons la marque du démon, nous avons la marque de Dieu en nous, le caractère baptismal. Revenons à Dieu, mes très chers frères, et demandons-lui qu'il anime notre volonté afin que nous puissions véritablement marcher selon l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Cherchez donc le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ce n'est pas perdre son temps, mes très chers frères, que de chercher le royaume de Dieu et de mettre en œuvre sa justice. C'est au contraire perdre son temps que de jouer avec l'illusion, se vautrer dans l'illusion. C'est au contraire racheter le temps par l'obéissance à Dieu. Et voilà pourquoi il est dit dans l'introïte, quelles sont aimables vos demeures, Seigneur Dieu des armées. Mon âme a soupiré jusqu'à défaillir après les parvis de Dieu, car un jour vaut mieux dans vos parvis que 1000 ailleurs. Un jour d'obéissance, mes très chers frères, un jour d'obéissance dans notre vie, que notre vie puisse-t-elle être ce jour unique. Un jour d'obéissance vaut mieux que 1000 jours d'amour du monde à notre mode, d'amour réactionnaire du monde. Un jour d'obéissance vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans les parvis du Seigneur, à faire sa volonté, vaut mieux que toute une vie passée dans la poursuite de ce qui n'est jamais que la vanité et la poursuite du vent. Mes très chers frères, rachetons le temps, obéissons à Dieu et recherchons le royaume de Dieu et sa justice par-dessus toute chose en premier, de telle sorte que tout le reste puisse nous être donné par surcroît et que nous puissions un jour aller au ciel tous ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci.